peu de dignité pour Amnesty International. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je vais avoir le plaisir de recevoir par téléphone Jacqueline Deloffre, qui est responsable de la commission Femmes Amnesty International. Donc elle appellera vers 13h40 et elle pourra ainsi faire un petit tour d'horizon des plus graves violations des droits des femmes dans le monde. Nous donner des exemples, nous parler de ces femmes que Amnesty International défend, soutient et protège. Et elle nous parlera notamment aussi des violences sexuelles qui sont très, très monnaie courante pour faire taire les femmes qui essayent de défendre les droits humains et droits des femmes. Et voilà. Et puis elle nous parlera aussi de la situation catastrophique des femmes dans les camps de réfugiés, sujet que je ne connais pas forcément si bien. Et donc je suis vraiment, vraiment heureuse de la recevoir tout à l'heure et de profiter de son expertise. Voilà. Alors en attendant, je vais revenir sur des thématiques très importantes et en fonction de l'actualité, revenir sur des sujets très, très importants. Sur lesquels il faut revenir. Donc, je vais vous parler de la Libye, du sort des réfugiés. Donc, j'en avais déjà parlé, mais il y a toujours une actualité préoccupante. Ensuite, je vous parlerai de la frontière franco-italienne et des migrants à la frontière au niveau de Briançon, puisque la semaine dernière, je vous en avais parlé avec Martine Landry. Donc militante expérimentée et voilà, elle nous avait parlé aussi de la frontière franco-italienne, mais plutôt au niveau de la vallée de la Roya. Ensuite, je reviendrai sur la responsabilité des entreprises avec Airbnb, le volte-face d'Airbnb par rapport aux colonies illégales en Israël, en Palestine. Et ensuite, je vous parlerai des armes françaises au Yémen, trois mensonges d'État. Donc, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, mais je vais revenir dessus. C'est très important d'en parler. Voilà. Donc, je vais donc commencer par la Libye, le sort des réfugiés en question. Depuis plusieurs années, Amnesty a documenté et a rendu public les violations des droits humains qui sont commises à l'encontre des personnes migrantes et réfugiées en Libye. Donc, je vous en ai parlé régulièrement et demande notamment à ce que la Libye mette fin à la détention des migrants et réfugiés et aux violations graves qu'ils subissent. Voilà, donc qu'en est-il actuellement ? Eh bien, près de 3000 migrants et réfugiés sont bloqués dans les centres de rétention d'Abou Salim, Garian et Qasr bin Gacher, qui sont proches d'intenses affrontements se déroulant à Tripoli. Donc le conflit est en train de s'intensifier. Le 4 avril, l'armée nationale libyenne autoproclamée sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar, a lancé une offensive pour prendre le contrôle de Tripoli. Depuis, les combats s'intensifient entre les troupes du maréchal Haftar et les milices alliées au gouvernement d'Union nationale, reconnues par la communauté internationale. Au moins 18 250 personnes ont été déplacées par les affrontements armés selon les Nations Unies. On dénombre 48 victimes civiles, dont 13 morts. Alors, qu'en est-il pour les migrants et réfugiés ? Eh bien, ils sont tout simplement pris au piège. Vendredi 12 avril, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a appelé en urgence à la libération immédiate des réfugiés et des migrants enfermés dans les centres de détention face à la détérioration de la situation sécuritaire. Ceux-ci se retrouvent pris au piège. À ce jour, le HCR a facilité la relocalisation de 150 réfugiés du centre d'Inzara vers son centre de transit et de départ. Le HCR a déclaré que ces initiatives de transfert de réfugiés étaient entravées par des problèmes d'accès et de sécurité. Alors, il se trouve que les États membres de l'Union européenne se retrouvent, sont complices de ce fait. Depuis la recrudescence du conflit à Tripoli, les gardes-côtes libyens ont ramené en Libye au moins 19 réfugiés et migrants. Ainsi, en soutenant activement les autorités libyennes pour stopper les traversées en mer et contenir les réfugiés et les migrants en Libye, les gouvernements européens contribuent à alimenter cette crise. Alors, ce que demande Amnesty International, eh bien, nous demandons que les États membres de l'Union européenne mettent en place des itinéraires sûrs pour sortir les migrants et les réfugiés prisonniers en Libye. Ils doivent également revoir impérativement leur soutien aux gardes-côtes libyens, lesquels interceptent les migrants et réfugiés en mer pour les renvoyer vers l'insécurité et les pires violences. Voilà, donc pour conclure, là, je dirais que la fraternité pour les réfugiés et les migrants, c'est chaque jour, défendons-les. Donc vous pouvez agir en ligne sur le site d'Amnesty International, retrouver les actions concernant ces réfugiés et ces migrants. Notamment, vous trouverez un message au président de la République française à adresser pour exiger la protection des défenseurs des droits des migrants, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque même en France, ils sont toujours poursuivis, la plupart des solidaires sont poursuivis pour délit de solidarité. Voilà, donc justement, je vais revenir donc aux frontières françaises. Donc je vous disais la frontière franco-italienne. Donc la semaine dernière, j'avais eu le plaisir de recevoir au téléphone Martine Landry, qui nous avait dit que dans les Alpes-Maritimes, eh bien, le préfet Georges-François Leclerc était parti. Un préfet qui, à plusieurs reprises, avait eu des pratiques. Ses pratiques avaient été condamnées par le tribunal administratif de Nice concernant à la fois les demandeurs d'asile et les mineurs non accompagnés. Donc, les associations d'aide aux migrants, bien sûr, ne vont pas le regretter. Et puis, elle nous avait parlé aussi du déni de Madame Valletta, députée de Menton, et de Madame Loiseau, qui, en présence de la presse, qui avait été convoquée à cet effet, donc il y a de cela peu de temps, peut-être une semaine, était venue soutenir les pratiques policières qui avaient été orchestrées donc, par ce préfet devant la police aux frontières de Menton, qui avait été vidée de tout migrant. Voilà, donc cette fois, je vais vous parler donc toujours de la frontière franco-italienne. Je vais utiliser, en fait, Amnesty l'a rencontrée, l'a interviewée. Donc, et donc, je vais reprendre, en fait, une interview qui date du 11 mars 2019, qui donne des nouvelles des réfugiés et migrants à la frontière vers Briançon. Donc Agnès Le Roll est chargée de coordination d'action pour la défense des personnes migrantes donc à la frontière franco-italienne pour plusieurs associations, donc Amnesty International France, la CIMAD, Médecins du Monde, Médecins sans frontières et le Secours catholique Caritas France. Donc on lui a demandé de nous raconter sa mission. Donc on lui a demandé quel était le rôle de ses missions d'observation. Alors voilà ce qu'elle a répondu. Le rôle est de voir les pratiques des forces de l'ordre côté français. On peut savoir quand une personne est arrêtée, combien de temps se passe avant qu'elle soit refoulée, si elle a accès à ses droits, à un avocat. Et si elle est refoulée, dans quelles conditions, par quelle température, est-elle remise à un policier italien ou non. Cela nous permet de conduire d'éventuels contentieux ou opérations de communication. Notre présence est aussi importante car elle montre qu'on ne lâche pas. Et on espère que les forces de l'ordre soient aussi moins agressives quand on est là. Alors on lui a demandé si elle pouvait établir un bilan. Donc elle dit, en décembre, au refuge de Briançon, il y avait une moyenne de 10 arrivées par jour, alors que les conditions climatiques sont terribles. Pourtant, il y a les mêmes difficultés qu'avant, avec des refoulements sans respect des procédures. Des chasses à l'homme dans la montagne. Certains se plaignent de violence. Quant aux maraudeurs, donc les citoyens solidaires qui essayent de venir en aide aux migrants, ils se font arrêter alors qu'ils essayent juste d'aider des personnes en détresse. Ils craignent des accidents mortels. Or, la seule chose réclamée, c'est que les personnes soient traitées dignement et dans le respect de la loi, qu'il n'y ait pas de contrôles illégaux aux faciès, que les personnes les plus vulnérables, notamment les mineurs, soient prises en charge. Donc, je vous rappelle qu'il y a eu des migrants qui sont morts. Hein. Alors, on lui a demandé si on voyait des arrivées de migrants en raison du changement de politique du gouvernement italien. En fait, quelle était l'influence de ce changement de gouvernement. Donc, elle a répondu qu'il n'y a pas trop de différence à Briançon, car il venait déjà en France en raison des mauvaises conditions d'accueil en Italie. Mais beaucoup entre Vintimille et Menton, où arrivent des personnes ayant dû quitter les centres d'accueil ou qui savent que leur carte de protection humanitaire ne sera pas renouvelée à cause de la nouvelle loi qui a été mise en place donc par Matteo Salvini. Ensuite, on lui a demandé si la solidarité s'exerçait mieux à Briançon que dans la vallée de la Roya, donc Alpes-Maritimes, donc de comparer un peu notamment ce qui se passe au niveau des institutions. Alors elle nous a dit qu'il était difficile de comparer les deux situations, mais à Briançon, la mairie et l'hôpital sont dans un dialogue a priori plutôt accueillant. Il y a aussi un contexte local très militant et une solidarité des gens de montagne, malgré la militarisation assez impressionnante de la frontière. Voilà, des nouvelles. Donc maintenant, je vais passer, je vous disais, donc au volte-face d'Airbnb. Donc, c'est en rapport donc, avec notre campagne d'Amnesty International qui s'intitule « 100% illégal, arrêtons l'importation de produits issus de colonies israéliennes ». Et là aussi, responsabilité des entreprises par rapport aux colonies israéliennes, donc notamment d'Airbnb. Donc Airbnb vient d'annoncer qu'elle ne supprimerait plus systématiquement les annonces situées dans les colonies israéliennes illégales de Cisjordanie. Une véritable honte pour cette entreprise. La décision d'Airbnb de continuer à autoriser les annonces d'hébergement se trouvant dans des colonies israéliennes illégales en Cisjordanie occupée est une manœuvre répréhensible et lâche qui porte un nouveau coup aux droits humains des Palestiniens. Donc Airbnb est totalement hypocrite. Cette décision est un renoncement scandaleux de la part d'Airbnb qui, en tant qu'entreprise, a la responsabilité de respecter le droit international humanitaire et relatif aux droits humains où qu'elle opère dans le monde. Cela vaut également pour les colonies israéliennes illégales des territoires palestiniens occupés. Cette décision met par ailleurs en lumière l'hypocrisie des déclarations de l'entreprise lorsqu'elle vante son attachement aux droits humains. Airbnb tente de se décharger de ses responsabilités en affirmant qu'elle reversera les bénéfices de ses annonces à des organisations caritatives. Mais cela ne change rien au fait qu'en continuant d'attirer des touristes dans les colonies illégales, elle aide à dynamiser l'économie de ces colonies. Ce faisant, l'entreprise contribue directement au maintien et à l'expansion de ces colonies illégales. Donc on assiste malheureusement à un retour en arrière d'Airbnb par rapport aux pressions donc, que l'on avait exercées pour qu'elle change d'attitude. Eh bien, Airbnb avait pourtant une occasion franche de prendre la bonne décision en faveur du respect des droits humains et d'utiliser son influence pour établir un précédent dans le secteur du tourisme. Au lieu de cela, elle a choisi de suivre une politique de l'autruche et de fermer les yeux sur les éléments accablants qui prouvent qu'elle contribue à faciliter des violations qui entraînent d'immenses souffrances pour la population palestinienne. Le renoncement d'Airbnb montre que nous ne pouvons pas attendre des entreprises qu'elles prennent seules les bonnes décisions. Nous avons besoin que les gouvernements respectent leurs obligations en intervenant et en adoptant des lois qui obligent les entreprises à respecter les droits humains. Donc voilà aussi l'action que l'on fait à Amnesty International, l'action sur les gouvernements effectivement pour demander des lois qui obligent ces entreprises à les respecter puisque ça n'est pas du tout dans leur intention première. Oui, vous en trouvez plus donc sur le site d'Amnesty International, déjà sur toute la thématique responsabilité des entreprises et droits humains, donc c'est une thématique à part entière d'Amnesty, et vous trouvez toutes les actualités concernant cette thématique. Donc, je vais vous parler maintenant d'une autre actualité brûlante qui revient, puisque la semaine dernière, je vous en avais parlé. Heureusement, grâce à une enquête d'investigation Disclose, qui a remis en lumière ce que nous dénoncions depuis de nombreuses années presque. Donc voilà, donc je vais revenir là-dessus. Armes françaises au Yémen, trois mensonges d'État. Le 15 avril, le site d'investigation Disclose rendait public des documents militaires français classés confidentiels défense. Ces documents prouvent l'utilisation d'armes françaises dans le conflit au Yémen. Les documents divulgués prouvent clairement que le matériel militaire français fourni à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis est largement utilisé dans le cadre du conflit au Yémen. Pourtant, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et Florence Parly, ministre des Armées, affirmaient le contraire. Le gouvernement a menti. Le 3 octobre 2018, une note contenant des informations classées confidentielle défense émanant de la Direction du renseignement militaire, DRM, a été adressée aux autorités. Celle-ci contredit la version officielle défendue aujourd'hui encore par la ministre des Armées et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et reprise par le président de la République selon laquelle il n'y aurait aucun risque que les équipements militaires français soient utilisés contre des populations civiles au Yémen, puisqu'ils ne seraient utilisés que de manière défensive. Le document de la DRM présente pourtant la liste très précise du matériel français qui a été déployé dans le cadre de ce conflit, jusqu'aux munitions. Or, le 12 octobre 2018, le président Emmanuel Macron affirmait avoir eu la garantie que la France, je cite, « ne fait pas partie des fournisseurs de l'Arabie Saoudite sur le conflit au Yémen ». Il y est aussi écrit noir sur blanc, par exemple, que des avions de combat Mirage 2009 opèrent au Yémen pour les forces émiriennes et que la France a fourni à l'Arabie Saoudite des pods Damoclès, un système de téléguidage laser de bombes embarqué sur les avions de combat saoudiens. En mars 2019, le travail d'enquête d'Amnesty International avait conduit à pointer les ventes par la France de l'Arabie Saoudite de ses pods Damoclès et la note divulguée par Disclose corrobore donc nos informations. Or, en février 2019, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, faisait cette déclaration lapidaire à l'Assemblée nationale. Il disait « Nous ne fournissons rien à l'armée de l'air saoudienne. » Florence Parly, ministre des Armées, déclarait également le 20 janvier 2019 sur France Inter « Je n'ai pas connaissance du fait que des armes soient utilisées directement au Yémen. Nous n'avons récemment vendu aucune arme qui puisse être utilisée dans le cadre du conflit yéménite. » Pourtant, le document prouve que les autorités françaises savent où, quand et comment les armes françaises sont utilisées, y compris lorsque les risques sont importants pour les populations civiles. La note a été diffusée plusieurs mois auparavant et a donc forcément circulé auprès des personnes les plus directement concernées et impliquées dans le dossier, dont la ministre des Armées. La France se rend complice de l'Arabie Saoudite et de ses alliés, responsable de la pire crise humanitaire actuelle. Je rappelle qu'on dénombre plus de 17 000 morts et blessés parmi les civils dans le conflit au Yémen. Donc il y a un non-respect total des engagements internationaux pourtant pris par la, par la France. Donc des éléments accablants prouvent que des armes occidentales fournies à la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite sont bien utilisées pour commettre au Yémen de graves violations du droit international humanitaire dont certaines pourraient être qualifiées de crimes de guerre. Des États comme la France bafouent leurs obligations internationales en continuant à fournir des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis en violation du traité sur le commerce des armes, le TCA, qui a pourtant bel et bien été signé par la France. Donc si vous voulez savoir plus précisément ce qu'est le TCA, vous pouvez aussi trouver sur le site d'Amnesty exactement ce que c'est. La réaction jeudi 17 avril de Madame Florence Parly aux informations révélées par le collectif d'investigation Disclose est d'autant plus choquante. Après avoir dit « À ma connaissance, les armes vendues récemment à l'Arabie Saoudite ne sont pas utilisées contre les populations civiles », la ministre des Armées récidive dans le déni du risque lié à l'emploi des armes françaises au Yémen en déclarant qu'il n'y a pas de preuves. Le TCA parle pourtant bien de risque et non de réalisation du risque. Depuis le début du conflit au Yémen, nous avons lancé à maintes reprises des appels aux autorités pour qu'elles fassent preuve de transparence au sujet des transferts d'armes françaises. Ces appels n'ont jamais été entendus. Les informations rendues publiques doivent inciter le gouvernement français à suspendre immédiatement tous les transferts d'armes susceptibles de contribuer à de graves violations des droits humains au Yémen, et ce, une fois pour toutes. Nous avons également prouvé récemment que des chars Leclerc fabriqués en France et vendus aux Émirats Arabes Unis faisaient partie du matériel utilisé lors de la bataille d'Al-Adeda. Selon des informations en libre accès, les Émirats Arabes Unis ont détourné du matériel militaire similaire, comme des véhicules blindés de combat, vers des milices soutenues par eux et qui ne sont pas soumises à l'obligation de rendre des comptes. Nous avons pu vérifier l'utilisation de canons d'artillerie autotractés de type César fournis par la France à la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Selon le Civilian Impact Monitoring Project, les zones frontalières du nord du Yémen, des quartiers d'Al-Adeida et les environs de cette ville sont particulièrement touchés par les tirs d'artillerie quotidiens qui frappent des habitations et des exploitations agricoles. Jusqu'à présent, en 2019, rien qu'à Saada, 62% des dommages aux biens civils ont été provoqués par des tirs d'artillerie et 27% par des frappes aériennes. En signant et en ratifiant le traité sur le commerce des armes, ceci s'est fait en 2014, je le rappelle, la France s'est engagée à ne pas autoriser de transfert d'armement dès lors qu'il existerait un risque que ces armes puissent être utilisées pour commettre ou faciliter des violations graves du droit international humanitaire ou des droits humains. Le gouvernement français a pourtant déclaré de manière répétée que la France respecte ses engagements internationaux. Or, aujourd'hui, l'absence de transparence sur ses exportations d'équipements militaires est telle qu'il est impossible de s'en assurer. Il est impératif que la France mette fin sans délai à l'opacité qui entoure ses exportations d'armes. Le Parlement doit par ailleurs pouvoir jouer pleinement son rôle de contrôle et s'assurer que des équipements militaires français ne risquent pas de conduire la France à contrevenir à ses propres engagements internationaux. Donc je pense que vous serez comme moi très touchés par ce sujet et vous pouvez donc agir sur le site d'Amnesty International. Vous avez tout plein d'actions possibles donc auprès du gouvernement, auprès des parlementaires. Donc je vais faire une petite pause musicale avant de revenir encore brièvement sur le sujet armes Yémen, en vous passant après une petite extrait du documentaire d'Arte qui s'intitule « Crimes de guerre au Yémen, quand les armes européennes tuent ». Donc c'est un documentaire d'environ une heure d'Alexandra Jousset, très 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 important, très intéressant. Et ce documentaire, voilà, je vous en faire passer quelques petits extraits seulement, mais si vous voulez en savoir plus, bon, il est passé hier sur Arte, mais il repassera en replay. Vous pouvez aussi le trouver sur l'application Arte TV et la télécharger et vous obtenez donc ce documentaire. Alors, en attendant, je vais faire une petite pause musicale. Donc, voilà.
Thank you.
peu de dignité, Amnesty International. Donc je reprends sur les crimes de guerre au Yémen dont nous sommes complices avec nos ventes d'armes. Donc je vous parlais, je voulais vous faire écouter juste quelques extraits du documentaire Crimes de guerre au Yémen, quand les armes européennes tuent, donc documentaire d'Alexandra Jousset. Donc rappelons par exemple un petit crime de guerre qui s'est passé en août 2018. Un bus scolaire avec à son bord 60 enfants était détruit au Yémen par l'armée saoudienne. Cette dernière affirmait avoir voulu frapper les rebelles houthis. Une bavure qui a fait pas moins de 51 morts et 79 blessés. L'horrible attaque du bus n'est pas la première. Depuis 2015, année marquant le début du conflit au Yémen, l'Arabie saoudite a réalisé 219 000 frappes sur le pays, dont un tiers sur des installations civiles. L'armée saoudienne est équipée en majorité par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Voilà, donc si j'y arrive là, je vais vous faire écouter juste le début du documentaire en question. Voilà, super.
C'est une sortie scolaire, comme en vivent des millions d'écoliers dans le monde. Un des enfants filme avec son téléphone. Ils sont une soixantaine dans le bus. La suite est filmée par cette caméra de surveillance. Soudain, le bus est frappé par une bombe. La déflagration est telle qu'elle traverse les magasins alentour.
J'allais faire les courses quand il y a eu le bombardement. J'étais avec mon autre fils. Je me suis jeté sur lui pour le protéger des éclats. Je ne savais pas encore quelle était la cible. J'ai demandé aux gens ce qui était visé. On m'a dit que c'était le bus. Alors je suis allé secourir les enfants. Il était enseveli sous la carcasse du bus. J'ai vu son blouson rouge et son foulard jaune. J'ai tout de suite reconnu mon fils. Ali était celui qui a amené les sourires dans la maison. Depuis sa mort, nous vivons dans la tristesse.
Ali avait 11 ans. Il a été enterré avec les autres enfants victimes. L'attaque a fait 51 morts et 79 blessés. Le bus a été bombardé par l'armée saoudienne. Elle parle de bavure et affirme avoir voulu frapper les rebelles houthis. Ce groupe armé tient le nord-ouest du Yémen et sa capitale Sanaa depuis 2014. Pour combattre les houthis et garder le contrôle sur leurs voisins, les Saoudiens ont pris la tête d'une coalition de pays arabes. Ils pilonnent le pays. 19 000 frappes depuis 4 ans, dont un tiers sur des installations non militaires. La guerre, commencée en mars 2015, aurait déjà fait 50 000 morts civiles. L'armée saoudienne est équipée en majorité par les États-Unis et par des constructeurs européens. Britanniques en tête, suivis par les Français puis les Allemands. Officiellement, l'utilisation de ces armes européennes respecte le droit international. La réalité est bien plus complexe et opaque.
Voilà une bombe anglaise fabriquée en mai 2015.
Moi, je pense que le Yémen est un scandale d'État au même type que le Rwanda, par exemple.
Combien de morts faudra-t-il pour arrêter ces horreurs ?
Écoute, voilà, je t'ai déjà présenté aux auditeurs, donc tu peux nous parler, on t'écoute, merci.
Merci beaucoup Nadia et merci de m'accueillir aujourd'hui dans cette émission pour parler des droits des femmes et plus précisément des femmes dont les droits sont bafoués et ce partout dans le monde. Mais pour commencer, je voudrais quand même dire un mot sur la Marseillaise des femmes qui se déroule ce week-end. Ça fait longtemps qu'Amnesty International y participe, mais cette année, nos militantes, nos coureuses, nos marcheuses pour les droits humains mettront plus particulièrement en avant des cas de femmes aujourd'hui en prison pour avoir revendiqué ou défendu les droits qui leur sont dus, ou pour avoir dénoncé l'impunité, ou dénoncé l'obscurantisme, dénoncé des systèmes patriarcaux, ou des diktats religieux. Que ces femmes soient aujourd'hui derrière les barreaux est absolument inadmissible. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons pour que justice leur soit rendue.
Et on entend parler des pires violations des droits des femmes. Et donc, vous qui êtes responsable de la commission des droits des femmes à Amnesty France, vous êtes probablement la mieux placée pour nous donner des exemples.
Oh, des exemples, oui. Je commencerai par vous parler d'Amal Fati, une jeune blogueuse égyptienne. En mai 2018, la police l'avait arrêtée de manière complètement arbitraire suite à la diffusion d'une vidéo où elle dénonçait le harcèlement sexuel dont sont victimes de très très nombreuses femmes en Égypte. Elle reprochait également aux autorités de ne pas protéger les femmes. Après avoir passé plus de 200 jours en prison, sans jugement, 200 jours en prison, Amal Fati a été relâchée sous caution fin décembre 2018. Alors nous avons failli crier victoire, mais accusée également d'appartenance à un groupe non autorisé, un groupe de défense des droits humains, elle a été condamnée à 2 ans de prison le 27 décembre par le tribunal du Caire. Et c'est une décision d'autant plus cruelle qu'elle venait à peine de retrouver son mari et ses enfants. Il y a bien sûr également le cas de Nasrin Sotoudeh. Les médias ont beaucoup parlé d'elle ces dernières semaines. Mais déjà Amnesty s'est occupé d'elle en 2011, oui c'est cela. Nous lancions une première action en sa faveur, une action de soutien en sa faveur. Il faut savoir qu'elle se bat depuis toujours pour l'abolition de la peine de mort. Donc en 2011, elle avait été condamnée à 11 ans de détention pour diffusion de propagande contre le régime. Bien sûr, lorsqu'on s'exprime contre les régimes, il s'agit toujours de propagande contre le régime. La sentence a été réduite à 6 ans, puis elle a été libérée en 2013 à la faveur d'une grâce. Il faut savoir qu'entre-temps, alors qu'elle était en prison, elle s'était vue décerner le prix Sakharov, donc nous pensons que le prix Sakharov y était quand même pour quelque chose dans la grâce des autorités religieuses. Liberté, libérée certes, mais pas libre d'exercer son métier. C'est encore un de ces harcèlements que subissent les personnes un peu partout dans le monde. Donc libérée Nasrin, mais pas libre d'exercer son métier. Alors pendant des mois, Nasrin ira tous les jours protester devant l'association du barreau d'Iran jusqu'à obtenir la levée de son interdiction d'exercer son métier d'avocate. Et finalement autorisée à le plaider, elle se battra de nouveau pour le droit des femmes et contre le port obligatoire du voile. Et vous connaissez la suite, Nasrin a été arrêtée à son domicile le 13 juin 2018 et elle a été condamnée à en tout 38 ans de prison et 148 coups de fouet. Et je pense, vous savez Nadia, que c'est surtout cette condamnation à 148 coups de fouet qui a provoqué ce choc planétaire. La prison, nous en parlons souvent de condamnation à des peines de prison dans nos communiqués de presse, dans nos dossiers, mais les coups de fouet qui vont être donnés à une femme, c'est 148 coups de fouet, c'est la mort garantie, si je puis dire, au bout des 140 coups. Ça a été le choc planétaire et c'est la raison pour laquelle de nombreuses associations, pas simplement Amnesty, de nombreuses associations s'engagent et se battent pour la libération de Nasrin. Il y a les avocats, il y a d'autres associations et c'est très très bien. Et j'espère très très fort que nous allons gagner ce combat très très difficile. Et restons encore en Iran un tout petit moment. Je voudrais également vous parler de Narges Mohammadi, une éminente défenseuse des droits humains en Iran, qui a été partisane d'une campagne contre la peine de mort et qui était vice-présidente du Centre pour les défenseurs des droits humains en Iran, un centre qui a été fermé de force en décembre 2008. En 2016, elle a été condamnée à 16 ans d'emprisonnement pour ses activités de défenseuse des droits humains. Cette peine très très lourde a été prononcée après des années de harcèlement ponctuées de périodes de détention, de remise en liberté surveillée, de harcèlement, de détention. Et cette insécurité et cette pression permanente, elles ont eu des conséquences dévastatrices sur sa santé. Aujourd'hui, Narges encourt de graves risques pour sa santé. Elle souffre notamment d'une embolie pulmonaire et de troubles neurologiques. Elle aurait besoin de soins médicaux spécialisés, mais qui ne peuvent pas lui être prodigués en prison, et on lui refuse toute sortie pour se rendre dans un hôpital spécialisé. Donc Narges, si nous ne faisons rien pour Narges, elle risque de mourir en prison. Et c'est une situation absolument intolérable. Nous ne la lâchons pas, Narges, et nous continuons de nous engager pour elle. Et puis un dernier petit mot, et je quitterai l'Iran, un dernier petit mot pour parler d'une jeune écrivaine iranienne, Gorlok Ibrahimi, qui a été condamnée en 2017 à 6 ans d'emprisonnement pour avoir écrit une fiction sur la lapidation. Et c'est suite à une perquisition à son domicile que les gardiens de la religion avaient trouvé son manuscrit jamais publié. Donc elle est en prison pour un document, pour un livre qu'elle n'a jamais publié. Elle a osé parler de la lapidation qui est pratiquée, qui a été pratiquée et qui continue d'être pratiquée en Iran. Je vous parlerai également des saoudiennes, des femmes saoudiennes que nous mettons en avant depuis quelques semaines et qui dénoncent le système de tutelle masculine. 3 de ces femmes seront mises à l'honneur lors de la Marseillaise des femmes ce week-end. Il s'agit de, je vous citerai uniquement les prénoms parce que je ne suis pas particulièrement bonne en iranien ni en langue arabisante. Donc je dirais, il s'agit de Lou Jaïn, de Imam et de Aziza. Et toutes 3 ont été arrêtées en mai 2018 avec 19 autres défenseuses et défenseurs des droits humains. Leur crime, c'était réclamer le droit de conduire pour les femmes et réclamer la fin du système très très répressif de tutelle masculine. Cette tutelle, c'est carrément la mainmise de l'homme sur la femme. La femme ne peut rien faire sans l'autorisation de son mari, de son père, d'un grand frère ou d'un oncle. Elle ne peut pas voyager, elle ne peut pas poursuivre des études, elle ne peut pas se rendre à l'étranger. Enfin, c'est quand même une condition sont extrêmement répressives et triste ironie du sort, si je puis dire. Ces femmes ont été jetées en prison un mois avant la mise en œuvre du décret d'application permettant justement enfin aux femmes de conduire en Arabie Saoudite. Mais nos défenseuses des droits des femmes et nos dénonceuses de la tutelle masculine sont toujours en prison. En février, néanmoins, nous avons reçu des informations mais vraiment très alarmantes sur des cas de torture et de harcèlement dans la prison où elles se trouvent. Nous avons écrit aux autorités pour demander qu'une délégation puisse avoir accès à la prison et rencontrer les détenus pour nous assurer de leurs conditions de détention. Malheureusement, notre appel est resté sans réponse. Nous avons eu une semi-bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle à prendre avec extrêmement beaucoup, beaucoup de précautions. Le 28 mars, nous avons appris que Imam et Aziza avaient été remises en liberté provisoire. Un terme bien vague qui est loin, loin de nous rassurer car les charges contre elles n'ont pas été abandonnées du tout. Lou Jaïn, quant à elle, est toujours derrière les barreaux.
Oui, j'aimerais bien que c'est vraiment incroyable aussi de tout ça.
Oui, je vous entends très mal, mais j'espère que vous m'entendez. Oui. Ouais, mais c'est l'essentiel. Oui, vous me parliez de campagne d'intimidation, de viol, de meurtre. Ah oui, les violences sexuelles et les féminicides sont hélas, monnaie courante pour faire taire les femmes qui justement dénoncent les brutalités qu'elles subissent et pour faire taire celles qui revendiquent leurs droits. Je vous citerai quelques cas au Guatemala, par exemple. Juana Raimundo était infirmière et avait été élue au sein du conseil exécutif du mouvement pour la libération des peuples autochtones. Elle encourageait de toutes ses forces d'autres femmes à se former, à poursuivre des études, à s'engager pour leurs droits, nous dirions à s'émanciper. Et Juana a disparu dans la soirée du 27 juillet 2018. Et son corps sans vie a été retrouvé le lendemain matin près d'un petit cours d'eau. Ce féminicide est resté impuni jusqu'à aujourd'hui. N'oublions pas non plus Marielle Franco, dont les médias ont beaucoup parlé, mais nous n'avons pas le droit de l'oublier. Conseillère municipale au Brésil, tuée le 14 mars 2018, vous vous souvenez ? Elle sortait d'une réunion sur le rôle de la femme noire dans la société. Elle était accompagnée de son attaché de presse. Elle monte dans la voiture démarre. Quelques minutes plus tard, un véhicule qui les suivait se rapproche. Les occupants ouvrent le feu à 9 reprises, a-t-on dit. Marielle reçoit 4 balles dans la tête et décède sur le coup. Son chauffeur est également abattu et seul l'attaché de presse s'en sort avec quelques blessures. Et au Salvador, donc, ce ne sont pas des meurtres, mais ce sont des condamnations absolument innommables. Au Salvador, nous n'avons pas le droit d'oublier toutes ces femmes condamnées à de lourdes peines de prison pouvant aller jusqu'à 50 ans après une fausse couche considérée comme un homicide. Et nous soutenons de toutes nos forces Théodora. Théodora a été condamnée à 30 ans de prison justement suite à une fausse couche. Nous nous sommes engagés avec les groupes d'Amérique latine très très fortement. Nous avons harcelé, c'était à notre tour de harceler le gouvernement. Elle a finalement été libérée après 11 années passées derrière les barreaux. Et au lieu de retourner tranquillement, si je puis dire, chez elle et de se consacrer à sa vie privée, elle a décidé à son tour de se battre pour que les vraisemblablement 30 femmes encore retenues au Salvador pour avoir fait une fausse couche, pour que ces femmes soient à leur tour libérées et puissent avoir une vie normale, si l'on peut dire, après une telle peine d'emprisonnement. Je vous parlerai aussi de l'Indonésie, où nous avons affaire à une forme de harcèlement en Indonésie. Baik Nuril Maknun, une salariée d'un lycée public, avait été déclarée coupable de diffuser du contenu pornographique, que je mets entre guillemets. Qu'avait-elle donc fait de si pornographique ? Eh bien, pour se protéger, elle avait simplement enregistré une conversation au cours de laquelle le chef de son établissement la harcelait sexuellement. Elle avait été condamnée à 6 mois d'emprisonnement, vous rendez compte, 6 mois d'emprisonnement, et 500 millions de roupies indonésiennes. Je pense que ce sont environ 30 000 euros d'amende avec possibilité de faire appel. Mais en raison du tollé, donc c'est important toujours de parler et de monter au créneau et de parler, de diffuser l'information. Donc en raison du tollé suscité par le verdict de la Cour suprême, le parquet a décidé de suspendre sa peine de prison le 19 novembre, juste 2 jours avant la date où elle devait commencer à purger sa peine. Donc cette suspension va permettre à Baik et à ses avocats de tenter d'obtenir une révision judiciaire pour constater le jugement. Vous voyez, il y a aussi des lueurs d'espoir à condition de ne pas baisser les bras.
Oui. Mmh.
Au Pakistan, je vois que l'heure tourne.
On a encore quelques minutes. Attends, je vois les... article 25, je les connais, ils sont dans le studio. Ils me disent que ça va, on peut encore déborder de quelques minutes. Ils sont...
D'accord, parce qu'il y a tellement de cas dont je souhaiterais parler et que vos auditrices, vos éditeurs
j'ai vraiment pas les
oublier.
C'est très important.
Je voudrais quand même vous parler d'un cas au Pakistan. Nous condamnons souvent les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ont du bon... parfois il y a des cybermilitantes qui se battent sur les droits sociaux, pour les réseaux sociaux, pour défendre les attaques que subissent les femmes sur Internet et qui tentent justement d'apporter de l'aide aux Pakistanaises. Donc au Pakistan, une cybermilitante que nous connaissons, Nijat Dad, nous a parlé d'un cas le plus choquant qu'elle ait jamais vu. C'est celui d'une femme, d'une vidéo postée sur Internet, dans lequel des hommes ont filmé le viol d'une enseignante dans un village reculé, puis diffusé bien sûr sur Internet. Son entourage a réagi de façon terrible envers elle. Les auteurs des faits sont derrière les barreaux, certes, mais la vie de cette femme est totalement ruinée. Elle ne peut pas retourner enseigner car son village la voit comme coupable. Donc c'est le Pakistan. Je ne voudrais pas terminer cet entretien.
Tu peux encore avoir quelques minutes. Non, ne t'inquiète pas.
Je voudrais quand même, parce que c'est une situation planétaire, je ne voudrais pas terminer cet entretien sans parler de la situation des migrants, de la situation des femmes dans les camps de réfugiés. Il y en a partout, il y en a en Grèce, il y en a au Liban, il y a au Nigeria. Et dans ces camps, lorsque ces femmes arrivent dans ces camps, il faut savoir qu'elles ont déjà subi des violences extrêmes pendant leur périple. Elles ont souvent été violées, elles ont été battues, elles ont été mariées de force, elles ont subi des humiliations. Et elles arrivent dans ces camps où pratiquement rien n'est fait pour les protéger. Je ne sais, voyez-vous, bon, ces camps sont surpeuplés, certes, mais rien n'est fait pour les protéger, pour les soustraire aux violences. Il n'y a pas d'accueil dédié. Lorsqu'elles veulent se confier à des accueillants, aux ONG qui les accueillent, elles n'ont pas d'endroits séparés. Ensuite, une fois qu'elles sont dans leur tente, elles n'ont pas de sanitaire à part. Évacuer à leurs occupations est un risque quotidien. Mais je souhaiterais quand même attirer votre attention sur une situation absolument catastrophique au Nigeria. Dans le nord-est du Nigeria, les militaires ont infligé à des femmes déplacées à l'intérieur de leur pays des violences et des atteintes aux droits qui équivalent certainement à des crimes de guerre et qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Il faut savoir que depuis 2015, l'armée nigériane a repris de vastes portions des territoires qui étaient sous la domination de Boko Haram dans le nord-est du pays. Or, au lieu de libérer ces femmes, elles les ont séparées des hommes, bien sûr, tout de suite condamnées ou suspectées d'appartenir à Boko Haram. Et les femmes ont été séparées des hommes, ont été conduites dans des camps, dans des hôpitaux délabrés, où elles se sont retrouvées au piège. Et les soldats les ont traitées avec méfiance et négligence, se rendant responsables d'agressions, de viols. Et les femmes sont maintenues dans ces camps dans des conditions terribles et qu'on pourrait résumer par une phrase tout aussi terrible, c'est que pour survivre, c'est donner du sexe contre un bol de riz. Et c'est la situation actuelle dans le nord du Nigeria. Et bien sûr, c'est une note très triste, je ne voudrais pas terminer quand même sur une note un peu plus optimiste, parce que nous nous battons, le combat pour les droits des femmes est un combat quotidien. Je ne voudrais pas terminer sans rappeler que les droits des femmes, c'est tous les jours et partout que nous devons les défendre. Et nous avons des batailles à gagner, et nous les gagnerons, et ce week-end, ce sera à Marseille, où je vous donne rendez-vous au stand d'Amnesty. Voilà, Nadia.
Ah, merci beaucoup. Bien, écoute, voilà, je te dis bienvenue dans ce créneau et quand tu veux, tu pourras revenir pour nous reparler de toutes ces actions. Je te remercie, je te dis à une prochaine fois.
Merci beaucoup, voilà. Nadia. Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Donc, je vais terminer justement, puisque l'émission, juste donc pour vous rappeler ce que vous disait Jacqueline Deloff, que vous pouvez vraiment agir ce week-end en rencontrant la Marseillaise des femmes. Même si vous ne courez pas, vous pouvez assister à la course et rencontrer le stand d'Amnesty International. C'est le groupe d'Amnesty Aubagne-La Ciotat qui reprend le partenariat avec la course Marseillaise des femmes. et vous pourrez être utile et agir pour le droit des femmes. Il faut savoir qu'il y a une équipe Amnesty de 70 femmes donc qui vont courir et 1 € sera reversé pour Amnesty International. Il faut savoir aussi, comme disait Jacqueline, que les actions sont très importantes pour les droits des femmes. Tout ce qu'elle a décrit est terriblement effroyable, catastrophique, etc. Dans de très nombreux pays, c'est presque pas croyable, en fait, tellement c'est terrible et noir. Mais bon, vous pouvez justement agir. Et il faut savoir que les pétitions, les lettres adressées pour les droits des femmes par Amnesty, eh bien, sont vraiment utiles. Sachez, par exemple, que l'année dernière, pendant la Marseillaise des femmes 2018, il y a eu des résultats par rapport aux actions, aux pétitions qui ont été signées par les personnes qui venaient au stand Amnesty. Notamment, je vois, l'année dernière, on avait demandé pour le Soudan l'annulation de la condamnation à mort de Noura Hussein Ahmad Daoud, âgée de 19 ans, mariée de force, violée et coupable d'avoir tué son mari en situation de légitime défense. Eh bien, on a obtenu que Noura ne soit pas exécutée. Pour la Chine, Liu Xia, veuve du prix Nobel Liu Xiaobo, assignée à résidence, avait disparu depuis des mois. Eh bien, Liu Xia a été libérée. Elle a pu quitter la Chine et vit maintenant en exil. Pour la Turquie, c'était l'action l'an dernier sur cette course. Donc, Taner Kilic, président honoraire d'Amnesty International Turquie, accusé sans preuve d'avoir tenu une réunion secrète, était emprisonné. Eh bien, Taner Kilic a été libéré au mois de juillet. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute, de votre soutien, de vos actions futures et actuelles pour les droits humains. Et je vous dis à bientôt.